bonjour à tous et merci d'être là pour ce deuxième moment fort du festival. Alors je vais vous présenter, pour ceux qui n'ont pas entendu hier la présentation de Véronique Guérin, qui est psychosociologue et qui fait plein de choses et qui a fondé depuis 18 ans peut-être un organisme de formation, l'association Étincelle à Montpellier, qui intervient auprès de nombreuses institutions avec le Théâtre Forum, pour décoincer des situations improbables souvent. Et puis, tu vas nous présenter une conférence théâtralisée. Alors moi, je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire la dynamique d'évolution individuelle et collective.
Je remercie Isabelle et merci vraiment à l'espace de nous accueillir ici. Merci à Isabelle et toute son équipe, Michel et les autres, d'organiser ce festival des Nouveaux Mondes. Qui est un endroit où il y a une réflexion qui est trop passionnante, interactive, novatrice. Voilà, donc on est très heureux d'être là aujourd'hui. Et merci d'être là avec nous. Avant d'aller plus loin, je vais présenter les quatre formateurs que je viens avec moi pour partager avec nous aujourd'hui la dynamique d'évolution du niveau collectif que je vais tenter d'éclairer pendant l'heure qui vient. Donc Sonia Autier, Emmanuel Guyot, Elodie Arnaud et Antoine Dubois-Violette, voilà, qui font partie de l'équipe d'Étincelle et qui sont formateurs et comédiens. C'est parti pour un voyage dans le temps. On va s'interroger dans cette conférence sur la question de l'articulation entre notre propre évolution individuelle à chacun d'entre nous, mais également pour l'évolution du monde. Et cette réflexion m'a suffisamment passionnée depuis des dizaines d'années pour que j'en co-écrive un livre qui s'appelle « Le monde change et nous, point d'interrogation » que j'ai co-écrit avec Jacques Ferber. Voilà. Et qui va présenter ce modèle de la spirale dynamique qu'on va aborder aujourd'hui pour mieux comprendre quelles sont finalement les étapes d'évolution. Et comment, quel est notre moteur d'évolution? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de nous? Donc, alors, voilà, ouais, c'est bon. La première chose, donc, notre organisme de formation est un seul, comme je dirais, fondement, la phrase de Gandhi, qui est « Devenons le changement que nous souhaitons pour le monde ». Donc, on est vraiment à l'écoute de cette cohérence possible entre notre évolution intérieure, notre connaissance de nous-mêmes, chacun d'entre nous, et notre engagement dans le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a cohérence entre nous? Et comment ça fonctionne? Comment le monde extérieur et ce qu'on vit là joue sur ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et comment ce qui se passe à l'intérieur de nous joue de façon plus ou moins consciente ou inconsciente sur notre manière agir dans le monde. Donc l'idée, le premier objectif de cette conférence, c'est d'aller sentir, en fait, à l'intérieur de nous, c'est pour ça que vous allez voir, c'est pas juste une conférence conceptuelle, d'aller sentir à l'intérieur de nous l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les différentes strates géologiques dont nous sommes composés, avec ce postulat que nous avons en nous les mémoires de l'humanité. Et pas juste les mémoires terribles, mais aussi les mémoires de conscience, les mémoires d'ombre et de lumière à l'intérieur de nous, et que nous sommes tous reliés. Voilà. Et donc ça vient toucher aussi à la psychanalyse jungienne, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui est vraiment cette idée que de l'inconscient collectif, des archétypes qui sont en nous. Et plus on est familier avec ça, plus on rentre en relation avec cette tribu incroyable qui est à l'intérieur de nous, et bien plus notre action dans le monde va être consciente. Voilà. Donc ces différentes couches à l'intérieur de nous, elles vont se présenter sous forme de personnages ici. Vous savez, ce moment-là où on dit il y a une partie de moi là, qui a très envie de faire ça, et l'autre partie qui dit non, fais pas ça, c'est trop dangereux. Oui. Donc en fait, la psyché à l'intérieur de nous, elle est multiple. Elle n'est pas unitaire. Et il y a un monde incroyable à l'intérieur de nous, et parfois les gens. Les parties de nous ne se connaissent pas, ou se méprisent, ou fondamentalement sont toutes persuadées d'avoir raison. Donc finalement, on sait comment ça se passe parfois dans nos rencontres avec l'extérieur. Donc on va aller à la rencontre de ces strates géologiques, on va tenter de mieux appréhender ce moteur d'évolution, qu'est-ce qui nous empêche aussi d'évoluer, et vers quoi on évolue. Est-ce qu'il y a une direction dans notre évolution? Est-ce qu'on va dans le mur, comme certains le pensent parfois, ou est-ce qu'en fait on est dans une conscience qui s'élargit, une complexité qui s'élargit également? Est-ce qu'on incarne nos valeurs? On va tenter aussi de mettre clair là-dessus, sur les moments où il y a des décalages entre nos valeurs, parce que partout où on intervient en général, il y a un consensus sur le fait qu'on aimerait tous être dans un monde en paix. Je suis allée en Israël récemment, ils veulent tous un monde en paix. Et surtout parce qu'ils ont des enfants, et qu'ils veulent que la suite de l'histoire pour leurs enfants soit un monde en paix. Et en même temps, il y a des peurs, et en même temps, il y a des croyances, et en même temps, il y a des mémoires. Voilà, donc si on ne voit pas ces endroits-là, il y a une partie de nous qui dit allez, faisons la paix, et puis on part au garde-pour dès qu'il y a quelque chose qui peut nous mettre en danger. Et enfin, j'ai rajouté cette phrase en écoutant tout à l'heure Vincent faire sa conférence, qui disait ce serait bien qu'on soit adulte, on se comporte parfois comme des gamins de 3 ans qui pensent que les ressources sont limitées sur la planète, que le jouet nous intéresse d'un côté qu'à l'autre. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'être adulte? Et c'est quelque chose que ce modèle va nous permettre d'apporter. Donc le modèle psychosociologique s'appelle la spirale dynamique. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un modèle qui m'a... C'est juste un modèle. Donc, comme tout modèle, il n'est qu'un reflet, une perspective sur la réalité. Je vous invite à le voir comme ça. Il y a des tas de choses qui vont vous intéresser, d'autres qui vont vous choquer ou pas vous plaire. Je vous invite à les laisser passer. Voilà, c'est juste une perspective qu'on va vous montrer. Et ce qui m'a intéressé particulièrement dans ce modèle de Carl Graves, c'est cette analogie qui tente de faire entre l'évolution individuelle de chacun d'entre nous et l'évolution des sociétés. Voilà. L'approche pédagogique qu'on va vous proposer, c'est une approche qui va intégrer des apports théoriques, comme je vous fais là, des transparents pour ceux qui sont visuels, il y aura quelques photos, il y a des mots qui sont écrits, ça les aide à intégrer, ça s'appuie sur les intelligences multiples. On va aussi vous faire faire des expériences pour essayer d'aller connecter les différents stratégies qui sont en vous. Et puis également, on va jouer des situations qui mettent en scène des conflits de valeurs, des conflits de vision du monde qui vont éclairer cette spirale dynamique. Bien sûr, tout ce qu'on fait, on garantit l'intégrité physique et psychique de l'ensemble de nos participants dans les conférences. Si vous n'êtes pas bien à la fin de la conférence, venez nous voir, il faut en parler. Mais à tout moment, sentez vous libre de faire ou de ne pas faire ce qu'on vous propose. Voilà, vous avez cette liberté-là. Je vous invite à ne pas empêcher les autres de le faire, mais je sais qu'aujourd'hui, je m'en réjouis, on est avec un public qui est déjà dans une réflexion, une conscience, qui intègre le corps, les émotions, l'action, la réflexion. Donc, ce qui nous a donné envie d'aller plus loin dans cette conférence, donc on fait des choses qu'on n'a jamais fait avant, et on va les tester avec vous. Donc, je vous le dis, ça nous met un peu de stress, enfin, ça me met un peu de stress, ils ont l'air d'aller, mais en même temps, c'est le dernier point, c'est que notre réflexion est en perpétuelle évolution. Donc cette conférence, ce travail sur la spirale qui a fait une quinzaine d'années, il ne cesse d'évoluer parce que nous-mêmes nous évoluons en même temps. Alors, la spirale dynamique. Donc c'est un modèle psychosociologique, ça veut dire quoi? Comme je vous le disais, psychosociologie, donc je suis psychosociologue, c'est un bien grand mot pour dire que je m'intéresse aussi bien à l'évolution individuelle qu'à l'évolution collective, et d'aller regarder l'articulation entre les deux, c'est-à-dire comment le collectif, la culture, joue sur mes pensées, mes représentations, mes actes, et comment chacun d'entre nous, on peut devenir acteur de l'évolution, de nos groupes, de nos institutions, de nos cultures. Il y a toujours eu dans chaque culture des précurseurs, des gens qui tentent de faire changer les choses. Et il y en a beaucoup qui sont morts pour ça, d'ailleurs, qu'on a brûlé, certains, crucifiés, beaucoup. Mais les premiers, ils débroussaillent, et puis après, ça devient la norme, en fait. Et puis, il y a d'autres problèmes qui se présentent. Et je dirais que chaque génération a la responsabilité d'aller, avoir de la gratitude pour ce qui a été fait avant. Parce que nos ancêtres ont fait un sacré boulot pour qu'on soit là aujourd'hui en vie, et assez tranquille. Et en même temps, nous-mêmes, nous avons des enjeux, nous avons des défis. Et nos enfants auront les enjeux et les défis suivants. Ouais. Donc, Kermès, il a travaillé pendant une trentaine d'années, je peux mettre deux, il a travaillé pendant une trentaine d'années, il a fait des milliers d'interviews, et ce qui le préoccupait particulièrement, c'est de s'intéresser à la théorie de Maslow, que sans doute beaucoup connaissent, c'est la théorie des besoins, voilà, la pyramide des besoins, et se poser la question, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les besoins? Est-ce que la survie, ça se place avant la sécurité? Est-ce que le besoin affectif et de reconnaissance, où ça se place? Donc voilà. C'est à partir de ce travail-là qu'il a élaboré la spirale dynamique. Et ça a été continué. Cette spirale dynamique est vraiment mise en action par Don Beck et Chris Cowan, qui en particulier, Don Beck, a travaillé en Afrique du Sud et a accompagné les dirigeants dans cette passage difficile de la fin de l'apartheid. Donc, vous voyez, c'est dans une dimension pas juste de développement personnel, mais également d'accompagnement des évolutions de culture. Ces travaux ont été repris et intégrés par Ken Wilber, qui était un penseur américain, qui cherche à tout intégrer. Voilà. Ken Wilber, c'est ce qu'on appelle la vision intégrative. On va assez peu en parler aujourd'hui. On en parlera plus dans les ateliers qui auront lieu pendant la semaine. Mais il a repris et intégré la spirale dynamique. Voilà, en deux mots, la spirale. Pourquoi la spirale? Pourquoi ce dessin de la spirale? Parce que la proposition, c'est que l'évolution se fait dans un processus qui intègre de plus en plus de complexité. D'accord? Donc en fait, ça fait comme ça. Mais on va revenir par des points, on va voir qu'ils ressemblent à ceux d'avant. Mais à chaque fois, on est dans une évolution dans laquelle le monde est de plus en plus complexe, de plus en plus large, et qui demande à notre cerveau d'intégrer de plus en plus de complexité. Et l'idée, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, chaque être porte en lui l'histoire qui s'est déjà passée derrière. On ne sait pas la suite de l'histoire, la spirale dynamique, c'est un modèle ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des étapes qui vont être proposées, celles qu'on a déjà rencontrées, mais on ne sait pas la suite de l'histoire. Et j'aime bien ça dans une culture récemment, une culture, nous on a tendance à mettre le futur devant et le passé derrière. Il y a des cultures où ils mettent le passé devant et le futur derrière. Et ça m'a juste fait, ah yes, parce que le passé je le connais. Ok, mais le futur, on y va un peu sans trop savoir où on va. Alors, double mouvement, l'évolution. Que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, on a deux moteurs de développement, je dirais, qui est d'un côté, chacun d'entre nous, on est 7 milliards sur Internet, je crois, à peu près en ce moment, on a tous des gènes différents. Moi, déjà, ça me scotche. Ça veut dire qu'on est tous invités à être singuliers. Et on a tout ça dans notre vie, c'est qui je suis. Quelle est ma singularité? D'accord? Donc il y a un mouvement qui cherche à se singulariser, à se différencier des autres. C'est une première ligne de développement. Et l'autre ligne de développement, c'est la ligne de on a besoin les uns des autres. Déjà, on a besoin les uns des autres, hommes et femmes, pour que l'espèce continue. D'accord? La rencontre est fondamentale. Et on a besoin de la tribu, on a besoin de l'appartenance, on a besoin d'être ensemble. Qui a un besoin aussi fort que ce besoin singulier. D'accord? Vous voyez deux mouvements qui peuvent donner l'impression que ça va s'opposer. Et Schopenhauer donne cette image assez intéressante des porcs-épics qui ils ont froid et des porcs-épics donc ils viennent se réchauffer les uns contre les autres. Et puis là, il y a des épines donc ils se disent non, au mieux que je sois tout seul, et je vais tout seul, j'ai froid. Et c'est un peu ce qui se passe souvent dans nos vies. C'est quand je suis seul, au bout d'un, je suis plus très bien. Donc je vais vers les autres, mais si je n'ai pas développé les capacités relationnelles, la conscience, la connaissance de moi, ben ça frotte, ça pique, donc finalement je dis de toute façon, l'enfer c'est les autres, comme disait l'autre, et donc je repars dans ma solitude. Et l'idée c'est d'arrêter de faire ce va-et-vient pour aller vers un développement aussi bien de la connaissance de soi, à l'intérieur qui je suis, que de ma relation aux autres. Comment ça va entre moi et les autres? Et comment notre relation peut évoluer. C'est pour ça qu'à Étincelle, on travaille particulièrement sur ce développement relationnel. Pas juste le développement personnel, mais le développement relationnel. Alors, en quelques mots, nous sommes constitués d'histoire de l'humanité, je vous l'ai dit. Quelles sont les couches qui nous composent? C'est ce qu'on va les regarder. On va les regarder aussi un peu dans l'apparition. Qu'est-ce qu'elles ont permis dans l'histoire de l'humanité? C'est vraiment d'aller reconnaître que certaines choses qui aujourd'hui nous semblent dommageables, c'est vrai qu'on travaille beaucoup à l'éducation nationale, on travaille dans les prisons, on travaille dans les hôpitaux, on voit des trucs, on se dit « Waouh, ça évolue pas vite ». Mais ça a été des progrès à une époque. C'est fou qu'un jour, les gens aient dit que l'école soit libre, gratuite, que tous les enfants aient l'école. Ils sont fous, les gens qui ont dit ça, à l'époque, dans le contexte. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, en tout cas dans certains pays. Et c'est le mouvement qui est là. Donc il y a cette idée d'aller voir ces couches et d'aller reconnaître à chaque fois ce qu'elles ont apporté à l'humanité et à chaque individu, mais ce qu'elles ont aussi engendré comme nouvelles questions ou difficultés. Et du coup, aujourd'hui, à quoi elles servent? Où est-ce qu'elles existent? Comment je vais en fait nourrir? Mon objectif, ce n'est pas de vous faire un cours d'histoire, vous verrez, il y a des approximations. Si vous voulez en savoir plus, vous achetez le bouquin à la fin de la page, je vous dédicace, et là vous aurez les précisions. Mais là, on va aller très vite, on va faire un parcours vraiment. On va pas zoomer sur des endroits, mais juste d'aller voir plutôt comment ça bouge, comment ça évolue, et qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de ça. Et mon objectif, c'est plutôt qu'au niveau individuel, vous puissiez avoir plus de clarté sur comment ça va à l'intérieur de moi, ces différentes couches. Et en fonction de notre histoire individuelle, de notre histoire familiale, culturelle, il y a des endroits où on a pris des coups. Et du coup, on est un peu fâché avec ces niveaux-là. Ok ? Alors, voilà, le dessin de la spirale. Et on va commencer ce voyage. Juste un petit mot sur les couleurs. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension pour l'instant, juste ça va. Si vous manque, si à un moment donné vous ne captez plus parce que un truc que j'ai dit, vous n'avez pas compris, vite en général, ça sert à tous les autres aussi. Ouais,
n'hésitez
pas.
Tu es très
clair. Ok, je te remercie. Je continue. Juste les couleurs. Graves a choisi des couleurs qui n'ont pas une symbolique particulière, qui ne sont pas la même que celle des chakras, par exemple. Donc je ne cherchais pas les analogies. Simplement à gauche, du côté de l'individuation, on est plutôt sur des couleurs chaudes. Et à droite, on est sur des couleurs froides. Voilà. Donc en fait, c'est, oui, plus ou moins, sur ces différents stades, où chacun va une couleur et un mot-clé. C'est comme ça qu'on va pouvoir en parler et échanger là-dessus. Ce qui est posé aussi par rapport à la spirale, en fait, c'est que l'être humain et les sociétés se développent, un peu comme les couches géologiques, dans un ordre qui est celui qu'on a pu constater, observer. En fait, ils ont constaté, observé, en fait, je me reconnais, même si c'est dans une vision assez occidentale. Voilà. Je ne suis pas sûre que ce modèle puisse être universel. Mais ce qui est important de voir, c'est que c'est comme un enfant, on n'a jamais vu un enfant apprendre à lire avant d'apprendre à marcher. C'est très rare. Moi, j'en ai pas en fait. Donc là, c'est un peu pareil. Il y a des choses auxquelles on accède dans un certain ordre. Et donc, on va partir ensemble, et donc on va repartir au début de l'humanité. Et donc, le premier stade que vous voyez, alors, petit retour en arrière. Merci. Le premier stade, ça va être le stade de la survie. C'est-à-dire, déjà, pour venir s'incarner pour être sur cette planète, il faut déjà qu'il y ait une envie de vivre. D'accord ? Je travaille pas mal en maternité et en crèche. Il y a des bébés, j'ai envie de vivre, quoi. C'est limite parfois les prématurés qu'on les insulte pas. Et des fois, ils ont une belle énergie. Et voilà. Il y a une énergie de vie au départ qu'on appelle instinct de survie. Qui est très câblé à l'intérieur de nous au niveau du tronc cérébral, on appelle aussi le cerveau reptilien, on a tous ça en nous. Et c'est ça qu'on va aller tenter de recontacter, déjà, parce qu'on a tous envie de vivre. Et là, on est en train, vous voyez, de discuter assez tranquillement, Imaginons que tout d'un coup des flammes arrivent par ici, toute votre énergie, et la mienne y compris, enfin de ceux qui sont à peu près en bonne santé psychique, va dire où est la sortie. D'accord ? C'est ça l'instinct de survie. C'est-à-dire qu'on court-circuite toutes nos réflexions, on va à l'essentiel. D'abord, si on veut continuer de développer notre conscience, il faut qu'on soit en vie. D'accord ? Donc on va aller contacter ça. Et pour ça, on va vous proposer un petit voyage dans cet endroit où on peut imaginer les premiers êtres humains, les animaux, etc., mais qui étaient dans un environnement hostile, en fait. Comme un bébé qui arrive, il ne sait pas où il arrive. Il n'a pas la compréhension, il n'a pas la raison. Juste, il arrive quelque part, il ne sait pas où il met les pieds, il ne connaît pas les autres. On va juste faire une petite expérience là-dessus. Ça va pour vous ? Donc, je vous invite à fermer les yeux, à vous relaxer pour l'instant. Le tambour, je ne sais pas si certains connaissent, le tambour chamanique, c'est ce qui permet un peu de sortir du mental pour aller faire des rêves éveillés, des visions, pour élargir notre conscience, on va dire, hein. Pour élargir notre conscience et se mettre dans un état de relaxation. C'est comme si je vous dis, rappelez-vous quand vous étiez bébé, juste le mental, il ne sait pas. Hein. Il ne sait pas, ça, il a zappé. Mais sans doute, on a la mémoire de ça, de même qu'on a la mémoire de l'humanité. Et donc, le tambour, comme plein d'autres, comme la France, comme plein d'autres... approche, me permet juste d'aller se relaxer pour s'ouvrir. Et voilà, je vous invite juste à fermer les yeux, relaxez-vous, voilà, posez-vous.
Thank you.
Merci. Alors, voilà, c'est ça le savège. Ça semble loin de nous, et pourtant, ça peut nous arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, en fait?
Vas-y, Antoine.
Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? C'est qu'en fait, il y a de l'adrénaline qui vient là. Vigilance, vigilance. Mon intention, c'est de rester en vie. Donc, vigilance. Ça peut nous arriver quand il y a des tsunamis, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a, vous voyez, cet endroit où on passe en état de choc. Il n'y a plus rien qui existe que juste le cerveau qui nous dit fuis ou attaque. Ça peut nous arriver, voilà, dans des attentats. Mais il faut voir aussi qu'il y a certaines personnes dans nos sociétés qui se retrouvent dans cet état de façon un peu chronique, puisqu'en fait, elles auraient en permanence dans cet état de vigilance, puisqu'il n'y a pas de sécurité. Voilà, donc ça vient réveiller notre vigilance de rester en vie. Ok. Et là, on ne peut même pas encore parler d'humanité. Et quand d'ailleurs on parle de ces êtres, en particulier en disant qu'ils sont désocialisés, déshumanisés. De quoi, à votre avis, il y a besoin à ce moment-là? De quoi vous auriez besoin quand vous êtes dans cet espace? Ouais. De sécurité. Okay, merci d'avoir dit. Ok, on va vous ramener dans la sécurité, si vous voulez bien. On a besoin de sécurité. Et quel type de sécurité, en fait? Une sécurité affective. Oui. Voilà, on a juste besoin de droit. Ok, donc merci d'avoir dit à cette personne. Ce dont on a besoin, c'est pas d'explication, c'est pas de parole, c'est comme le bébé, il a juste besoin de droit. Ok. Et donc, c'est le deuxième stade. Ouais, en fait, ce dont on a peur, à ce moment-là, c'est l'inconnu, c'est le truc qu'on n'a pas prévu. Cet endroit où on pourrait mourir. C'est vraiment cette peur de la mort qui est engrangée de façon très archaïque, au fond de nous. Et ce dont on a besoin, c'est cette sécurité affective qui nous est apportée par le contact avec elle. Par les bras, pas le contact amoureux, hein, mais vraiment le contact de protection. Je suis là, je prends soin de toi. J'ai travaillé avec des gens qui ont, suite à des attentats, ou les cellules de crise suite à des attentats, juste ces gens qui ont dit, ok, on est là. On est là. On est là. Tout ça, ça lâche. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Vous êtes en vie? Non, mais... Donc, comment on prend en charge un jour ici? Voilà, donc en fait, au niveau de la spirale, vous voyez que là, le premier niveau, qui est le niveau beige, donc c'est vraiment l'instinct de survie, il est du côté individuel, parce que chacun d'entre nous, quand on vient au monde de façon singulière, en fait. On coupe le cordon, on aide, on nous donne un prénom, et on est là, tout seul. Et ce dont on a besoin, ça va être de cet espace relationnel, et le premier type de relation qu'on va rencontrer et dont on a besoin, c'est la fusion. D'accord? Cet endroit où toi et moi, on ne fait qu'un. Je vais donner quelques infos sur la fusion, sur l'apparition, si tu veux bien, mais on fera l'expérience après. C'est juste pour être vas-y. Alors, ce violet, cette fusion, d'après la spirale dynamique, ça arrive dans l'humanité entre 40 000 et 10 000 avant Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, et à chaque fois qu'il y a évolution, c'est toujours en lien avec des conditions de vie qui évoluent. Donc c'est le moment où il y a une vie semi-sédentaire, hein, il y en a des groupes, des tribus qui se baladent et qui commencent à se poser, des animaux qu'on commence à domestiquer. On commence aussi à fabriquer, on retrouve des armes de chasse. On voit aussi les fresques dans les grottes, l'art préhistorique. C'est une culture orale. Donc, qui dit culture orale dit respect des anciens, parce que c'est eux qui ont la connaissance. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va en tribu? Pourquoi est-ce qu'on est au sein d'une tribu? Est-ce qu'on a besoin de réconfort, de communion, de cette sécurité affective dans un monde qu'on ne comprend pas? Vous voyez, c'est quoi ces orages? C'est quoi ces animaux? C'est quoi ce vent? C'est quoi cette nature? Donc, du coup, la tribu est l'espace de sécurité fondamentale. Et d'ailleurs, quand quelqu'un, la sanction à l'époque, si quelqu'un faisait quelque chose qui pouvait mettre à mal la tribu, la sanction c'était le bannissement. Et être banni d'une tribu, c'était pratiquement être sur le monde. Sauf si on retrouve une tribu ailleurs. D'accord ? Donc vous voyez comment la tribu est porteur vraiment de cette sécurité intérieure. Et la protection, elle est donnée aussi, pas de façon rationnelle, ce qui arrivera beaucoup plus tard, mais elle est donnée par des rituels, par la magie, par l'interprétation des signes. On cherche à comprendre le monde au travers de signes, d'interprétations, de rituels qui viennent tenter de protéger, de nous protéger du monde extérieur. Quelques photos. Voilà, c'est aussi le moment où on commence à enterrer les morts. Voilà, c'est vraiment la notion d'appartenance à un groupe. C'est aussi la notion du conformisme aussi. Nous, dans nos sociétés, on a parfois tendance à idéaliser ces sociétés-là. Il y a des choses, on va voir, qui nous intéressent beaucoup, et c'est pour ça que le chamanisme est en vogue aujourd'hui. On va voir ce qu'on vient y chercher. Mais il y avait un conformisme extrêmement fort. Ce qui se fait, ce qui se fait pas, parce que ça peut mettre en danger la tribu. Les femmes, elles font certaines choses, les hommes, elles font certaines choses. Il y a des rituels, tu dis pas, non, j'ai pas très envie d'aller dans la forêt pendant 3 jours. Non, tu vas si tu veux être un homme. Vous voyez, les choses étaient extrêmement structurées et conformistes, d'une certaine manière. Alors, le violet aujourd'hui, où est-ce qu'on retrouve? On va le retrouver dans l'intimité, dans le couple. Bah, cet endroit où la fusion, c'est vraiment cet endroit où on ne fait qu'un. Il n'y a pas encore de différenciation. D'accord ? De même que le bébé ne sait pas qu'il est séparé des autres. La fusion, c'est ce moment où on ne fait qu'un. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va chercher souvent dans le chamanisme, qu'on en vit dans ces tribus-là. On travaille pas mal avec ça. C'est cet endroit où il y a une communion avec l'un, où il y a une relation avec la terre-mère. Donc dans le couple, dans la famille, et les thérapies aujourd'hui intègrent cette dimension de l'inconscient collectif, cette dimension des mémoires, cette dimension du corps, cette dimension de l'importance de ces rituels, de cette magie, parce que ça joue sur notre psychisme. Vous voyez qu'on vient se référer à ça. On va faire un ou deux exercices. J'ai un peu plus fort maintenant, parce que l'exercice sur le belge, ça va bien?
Ça m'inquiète un peu la fabrique du journal.
Ça vous inquiète un peu? La fabrique du
journal?
Oui, alors prenez
là, là, on est dans la pathologie, hein, si on est dans la fabrique du journal.
Alors, ok, merci. Donc la question, c'est se mettre dans une famille fusionnelle, mais dans la pathologie. On va vous montrer une situation tout à l'heure qui vient parler de ça. On ne va pas dire pathologie, moi, mais en tout cas, il va falloir aller sortir cette famille, ça ne va pas être simple. La fusion, c'est souvent quelque chose qui a une mauvaise cote, hein, mais la fusion, c'est fondamental entre le bébé et son environnement, et particulièrement sa mère. C'est vraiment grâce à cette fusion que l'enfant peut connecter une sécurité intérieure profonde. D'accord ? On sait même pas ce qu'il veut le bébé, hein. C'est difficile. Hein. Si je ne sens pas comme si c'était ma propre chair, alors je ne peux pas en prendre soin. Par contre, si l'enfant grandit et que son environnement continue de faire ça, là, ça va être problématique. D'accord ? On va voir que le stade suivant, ça va se chercher la puissance pour sortir de la matrice. Mais avant, on a goûté la matrice. Ceux qui veulent goûter la matrice. Je vous rappelle, vous avez la liberté de faire ou de ne pas faire. Ces deux exercices assez soft qu'on vous propose, de mon point de vue, le premier, c'est celui-là. C'est le home. Tout le monde connaît le home. Qu'est-ce que ça fait, le home? C'est qu'en fait, au niveau de la voix, du son, on vient chercher l'endroit et on a cette sensation qu'il n'y a qu'une seule vibration. D'accord. Donc on va juste chercher ça, cet endroit où on se fout dans le son collectif. Ça va pour vous ? Donc je vous invite à vous poser confortablement. Amen. Voilà, je vais démarrer avec le micro, après je continuerai sans micro. Mais vraiment, sentez comment votre voix, elle vient se fondre avec les autres voix, juste dans le plaisir de faire partie du groupe dans lequel mon individualité disparaît. Alors, respirez, expirez. Quelques mots pour dire juste comment c'était pour vous, agréable, désagréable, surprenant.
Fusionnel.
Pour qui c'était agréable? Ok. Pour qui c'était pas évident? Non. Ok.
Moi,
je
dirais plutôt
harmonique. Harmonique. D'accord. C'est ça qui vous a plu, c'est parce qu'il y a quand même de la différence dans ce son.
Il y a. Un peu comme une note quand elle s'éteint, il y a la formalité et une décomposition, un peu comme la lumière qui s'est encore en
ok, donc une formalité, une décomposition. Qu'est-ce qu'il y a là, en fait ? Les vibrations, la résonance,
l'amplitude.
Et du coup, ça met dans un espace de oh, j'ai rien à faire, j'ai rien à prouver. Vous voyez, ça repose en fait.
Je me suis senti porté.
Vous êtes senti porté.
Ça chauffe le cœur.
Donc en fait, je pense que une grande partie de notre quête, elle est d'aller retrouver ça. On parle du paradis perdu. Mais en fait, on croit, le risque serait de penser qu'il faut revenir en arrière pour retrouver. Alors qu'en fait, en tout cas, c'est le propos de la spirale et de cette conférence aujourd'hui, c'est de voir comment on peut avancer, c'est peut-être l'endroit où on veut retourner, c'est cet endroit-là, en conscience.
Oui, ça stimule la conscience.
Ça stimule la conscience.
C'est aller vers l'unité.
Et c'est aller vers l'unité. Donc c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de spiritualité, hein, c'est cette quête du un, dont on vient, et vers lequel... on aspire à revenir. Mais entre-temps, il va falloir faire son parcours d'incarnation et de revenir dans cet endroit-là en conscience. Ça voudra dire, à un moment donné, on verra ça plus tard, tout à l'heure, de lâcher l'ego, parce qu'entre-temps, ce sera bien construit une identité. Je suis un homme, une femme, je suis psychosociologue, je suis bien, etc. Et c'est tout ça qui va être à lâcher si on veut retrouver ce plaisir, cette conscience, cet abandon, ce lâcher prise, de « Waouh, quelle aventure cette humanité, mais voilà, je peux me refondre. » On va faire un deuxième exercice qui est plus dans le corps, celui-là, avec une musique. Donc, attends juste une seconde. C'est la même chose que le son, mais au niveau du geste. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film qui s'appelle Baraka, qui montre une tribu à Bali, ou en fait, avec un ancêtre, qui est un peu un leader, ils font tous les mêmes gestes, mais pas du tout de façon militaire, hein, mais de façon, ils sont tous dans les mêmes mouvements, et ça donne vraiment l'impression de quelque chose d'organique. Bon, on trouve ça aussi dans Avatar. Vous savez, la scène de guérison, à la fin, ils sont tous reliés, les chiens soient. C'est cette idée du 1, donc nous, on va faire tout simplement, en musique, On va simplement se mettre debout. Vous allez lâcher les papiers de main. C'est vous qui allez commencer à guider. Mais au bout d'un moment donné, l'idée c'est qu'il n'y a pas de guide. On est juste à prendre un peu d'espace si on va lui donner des coups, si ça ne va pas le faire. Voilà, donc juste relax. Et juste, avant qu'on mette la musique en top, c'est juste voilà. Les pieds bien posés dans la terre, sensation de la terre. Les yeux fermés, entre-ouverts au départ. Laissez-vous guider par la musique. Et ensuite, c'est vous qui allez commencer les gestes. Mais au bout d'un moment donné, vous pouvez même bouger sur place. Et il n'y a pas de leader, en fait. C'est juste sentir, est-ce qu'on peut être tous dans le même mouvement. Allez, c'est parti. Alors, prenez le temps de respirer. Posez-vous, sentez votre cœur battre, les pieds dans la terre. C'est juste un jeu. Quand vous sentez, vous ouvrez les yeux. Et quand vous sentez du mouvement du côté de Manu et Sonia, vous laissez guider. Même c'est votre tête à rien à faire là-dedans. Voilà. C'est juste votre corps qui sait très très bien parce qu'on n'est pas séparés. Donc tu fais exactement le même geste. On s'en fout, c'est un peu en avant, on s'en tarde. Juste. C'est comme une évidence que. Sur vous, comme ça, vous n'avez même plus le leader, vous n'avez plus le guide, c'est le groupe, c'est vous-même, c'est vous. Et respirez à l'intérieur de ça. Voilà. Est-ce que je peux avoir du plaisir juste dans ce que j'ai pris, dans cette expérimentation. Et c'est grâce à cette puissance qu'ils vont pouvoir sortir les jupes de leur mère. D'accord ? Donc là, c'est aussi grâce à cette puissance qu'on va pouvoir explorer le monde. En fait, il y a un besoin, une pulsion d'exploration et d'aller sentir sa propre puissance. Bien. Ouais, voilà. Donc en fait, au niveau de la spirale, on a vu l'instinctif, on a vu le fusionnel. Vous voyez, là, on passe du côté de l'individu. Si j'ai ma sécurité intérieure suffisamment forte, je vais pouvoir aller explorer le monde. je vais aller dans la puissance. Donc au niveau de l'histoire de l'humanité, la valeur clé, c'est la puissance. Et à l'apparition du rouge, je vais passer l'apparition du rouge, on fera l'exercice après. Donc, on situe ça à peu près à moins 10 000 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'humanité? C'est qu'on va vers la sédentarisation, domestication des plantes, émergence de l'agriculture, et donc plus prise en charge par les hommes pour des histoires de force physique. Donc, on commence à avoir une économie de production, et les dieux, qui étaient avant plus féminins et masculins, deviennent avec une prépondérance masculine. C'est le culte du héros. Le travail commence à être organisé un peu plus, alors qu'avant tout le monde était polyvalent. Il y a quelque chose qui se divise au niveau du travail. On commence à voir arriver les premières monnaies, les échanges commerciaux. La métallurgie qui va permettre de construire, de fabriquer des armes. Les villages se fortifient. On passe dans des féodalités où en fait il y a finalement j'ai besoin de protection. Où je donne de la protection en échange de services. Donc on passe dans des relations de rapport de force, de servage, etc., des systèmes d'obligation de service pour trouver la protection, et on commence à aller vers des dessins individuels. C'est-à-dire qu'il n'y a plus juste la tribu, il y en a qui commencent à avoir de la force, de la puissance, qui ont envie de conquérir le monde, et donc on voit apparaître des destins individuels avec de l'enrichissement, de la puissance, de la pouvoir, du pouvoir, pardon. Et l'émergence de l'ego, on va dire, en tout cas, de la reconnaissance de son identité propre. Quelques photos par rapport à ça. Voilà, c'est l'agriculture qui apparaît. Vas-y, tu peux passer. Les armes. La puissance. Alors, dans notre culture, le rouge, c'est très de la puissance. On n'aime pas trop, on ne sait pas trop quoi en faire, hein, surtout quand on est dans des espaces non violents, on va voir que ça arrive beaucoup plus tard, mais on ne sait pas trop accueillir et faire avec des personnes qui sont activées, qui sont dans cette vision du monde que dans la vie je fais ce que je veux. Et donc, on assimile, on est souvent dans la confusion entre puissance et violence. Et ça va être intéressant, on va travailler ça dans les ateliers, d'aller clarifier est-ce que c'est de la puissance ou est-ce que c'est de la violence. Et du coup, comme on est dans une culture qui n'est pas très à l'aise avec ça, dans les films, il y a « waouh, on y est dans cette violence-là ». Donc, elle sort pour une fois. Alors, vas-y, voilà, on est dans les bandes. On est vraiment dans cette expression de « c'est moi le plus fort et je te respecte si tu es fort ». Voilà, et donc dans tout ce qui va être aussi prise de risque. Et vous voyez, quelqu'un comme Zidane, qui est plutôt pourtant quelqu'un d'assez posé, eh bien, à un moment donné, on ne sait pas trop ce qu'il a été dit, mais c'était sûrement une histoire d'honneur par rapport à sa famille, et paf, ça a été activé à l'intérieur de lui, il pouvait mettre à mal sa carrière, il a été sanctionné, mais il est venu être activé par « je te bute parce que tu m'as humilié ». Donc c'est en nous ça, on a chacun au fond de nous ça, qu'on le veuille ou non. Et c'est grâce à cette puissance et à cet élan vital qu'on peut aller dans la vie. On va le voir tout de suite avec une situation. Donc le rouge aujourd'hui, c'est parfois associé à la violence, mais c'est l'élan vital qui nous permet d'aller dire « je vais vivre ma vie ». Ok ? Et sortir de relations éventuellement d'emprise, qu'on peut voir dans certains groupes, c'est l'enthousiasme, c'est l'élan vital, c'est reconnaître et canaliser la puissance. Ça va ? N'hésitez pas, s'il y a des questions de compréhension. On aura des temps un peu d'échange. Donc, on va faire une mise en. On va aller chercher notre puissance, là. Ok ? C'est très agréable en général, je trouve, personnellement. Et c'est Manu qui va l'animer.
Alors, je propose de vous lever. Je vous appuie. Je vais proposer d'aller poser vos pieds dans le sol pour faire une marche de place. Pour sortir les mains. commencer à faire un balancier avec le corps. Et accompagner avec ta respiration d'abord. Et on va mettre du son et on va sortir à chaque pas un son qui vient du bas. Pas pour faire mal à la gorge.
Depuis maintenant, ça fait quoi 35 ans qu'on a monté cette petite affaire familiale.
Voilà.
Et
Matrice Grégory, j'ai 22 ans et j'ai fait des études de menuiserie et je travaille avec mon père dans l'entreprise familiale et avec ma mère et avec Sylvie.
Donc Sylvie, moi je suis une amie de très longue date de Madagascar. Et je travaille dans l'entreprise depuis bientôt 15 ans et c'est un vrai moyen.
Ok, merci. Donc on va. Voilà, ils vont vous jouer cette scène. Qui se passe, je crois, c'est le moment du café.
Hein. Il est quelle heure hein?
Ah, ça y est, c'est dans la poche. Il y en a un monsieur Blanchard au téléphone, on a le contrat.
Génial.
Ah, c'est chouette, hein. Ah, tu vois, Grégory, ton premier soir qui va gérer le projet, ça va être super.
T'es content?
Ouais.
Ah, je suis fier de toi, mon fils.
Quand je pense que je t'ai connu tout petit. Ouais. Cette voix dorée, la facilité, là, comme ça, à bouger.
Ouais, c'est bien, ça.
Ah, c'est bien. Tu vas continuer notre entreprise, tu vas. Ah, tu vois, ça va être. Ah, ça va être super.
Bon, on sort le champagne, hein, toi.
Allez, je vais chercher le champagne.
Ouais. Oui, je suis content.
Ah, bah tiens, je te laisse ouvrir le champagne. Ah, moi, je trouve ça assez beau, hein, ce petit cocon qu'on a réussi à construire.
Ok, ça, on reste sur l'image. Est-ce que vous voyez bien la collision des valeurs?
Oui.
Hein, la côté, vous voyez, on n'est plus en termes de bien ou mal, finalement, on peut regarder les choses en termes de bah, eux, leur vision du monde, c'est quoi? C'est la tribu, l'importance de cette entreprise qui a permis la famille, son vie. Et puis Grégory. Grégory, toi, comment ça va pour toi?
Je ne sais pas leur dire.
Je ne sais pas leur dire. Alors, de quoi il a besoin pour leur dire?
De puissance.
Il a besoin de prendre un risque.
Vous connaissez bien.
pas un exercice à faire.
Ok, donc vas-y, la balance, attention. On a peu de temps, donc en fait, tu as une minute, non, deux minutes pour nous dire. C'est parti.
Ah. Ma fille, c'est vraiment, je suis fière de toi. Ouais.
En fait, il faut que je vous dise quelque chose. En fait, j'ai pris un billet d'avion, je pars dans 15 jours, je pars pendant au moins un an, je vais faire le tour du monde et j'abandonne la série.
Ah,
oh,
c'est génial comme.
Mais attends.
Tu plaisantes?
Non, je plaisante pas. En fait, j'ai envie de voyager. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de faire ça et.
Non, mais tu peux pas nous faire ça, on compte sur toi.
Tu vas pas nous abandonner quand même.
Mais enfin, Grégory.
Je te rends pas compte de la chance que tu as.
Mais je ne vous abandonne pas, je vais.
Grégory, avec tout ce qu'on a fait pour toi, tu vas. Non, assieds-toi, viens, écoute.
Je suis un médecin.
Viens voir nous boire le champagne avec nous, tu vas voir.
Non, mais.
Ça va passer, c'est mon moment de l'année.
Christophe, moi, je suis ma jolie Louis, c'est à nouveau de. Voilà. Tu reviens ou tu ne reviens pas? C'est quoi la risque qu'il prend?
C'est
la séparation, c'est l'éloignement, c'est de faire la peine, c'est de sortir de la
crise,
d'être exclu, d'être détesté.
C'est pas la séparation, c'est la rupture.
Oui, alors c'est la séparation, c'est la rupture, après bon, ok. Alors vas-y, prends le risque, parce qu'on va passer au niveau suivant.
Vas-y, Grégory.
Ouais!
Ça va, hein?
Ouais!
Bien!
Et on est pas plus qu'ici.
Ok, voilà, c'est super. Le risque que tu prends aussi, c'est le cash. Hein, c'est vraiment le cash. Et c'est pas évident d'être dans cette puissance-là sans passer dans la violence. Parce que si en face, le père commence à lui dire tu peux pas faire ça, je te prends là si tu pars, je te casse la gueule, etc., il peut aussi partir dans la violence. Voilà, donc c'est canaliser cette énergie qui est en soi pour s'affirmer. Et oser faire cela où ça nous appelle, sans pour autant tuer l'autre. Ok ? Merci. Allez, on continue. On avait oublié un univers dans l'histoire, mais maintenant, un univers où il y a des gens sur les rapports de force. Il y a des dominants, il y a des soumis, il y a. C'est épuisant, en fait. Hein, que ce soit dans les cours de récréation, dans les familles, dans les quartiers, d'ailleurs, un moment où je vais être tout le temps en vigilance, non pas pour survivre, mais pour ma sécurité, c'est fatigant. Donc ce qui a émergé, c'est ce besoin d'ordre, mais aussi de qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quoi. Voilà. De sens. Quel est le sens? Et c'est comme ça, le besoin de transcendance qui a commencé à émerger, la notion, merci pour le suivant, la notion d'ordre, mais aussi la notion de bien ou mal. Alors aujourd'hui, on dit, ouais, c'est vrai, c'est pas de la morale qu'il faut dans l'école, c'est de l'éthique. Mais il a bien fallu passer par la morale. Et tu ne tueras point, il nous semble évident qu'elle est aujourd'hui, mais ça a mis des milliers d'années. Tu ne tueras point. Waouh, ça me fout, moi. Vous voyez ? Donc en fait, c'est cette émergence de l'acceptation. C'est l'émergence de l'acceptation d'une autorité qui est au-dessus de nous et qui va pacifier nos relations. De règles qui sont au-dessus de nous, qu'elles soient d'ordre théologique, donc c'est l'avènement des religions monothéistes, et non plus des religions panthéistes, où en fait le sacré est partout, mais de religions monothéistes, et c'est l'avènement aussi des États, des nations, des structurations, et c'est lié à l'arrivée de l'écriture également, qui permet de penser plus dans l'immédiateté de l'impossibilité, mais également dans le avant et après la mort. Donc quelques photos par rapport à ça, l'arrivée de l'écriture sumérienne en l'occurrence. Vas-y, merci. Voilà, la monarchie, le droit divin, vous voyez, l'écriture des places et des rôles de chacun. Parce que quand il y a des places et des rôles, alors on a juste à obéir. C'est pas forcément confortable, il y a des places plus agréables que d'autres, mais au moins je suis protégée. Probablement des grandes régions monopolistes, des États, et aussi la coercition qui va de pair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit ça c'est bien, ça c'est mal, il existe un Dieu, c'est un Dieu comme ça, etc., et bien vient aussi l'inquisition, vient aussi la coercition pour faire en sorte que cette morale soit appliquée. Okay. Les règles du jeu et aussi donc la police qui va de pair, dont le rôle premier est l'application de ces lois. Nation, vas-y. Voilà, on situe ça à peu près 5000, l'apparition du système de valeurs bleues, avec l'apparition de l'écriture, qui fixe, et c'est intéressant de voir que dans les institutions, quand on écrit, ça permet de sortir des relations de pouvoir. Parce que tant qu'il n'y a pas d'écriture, on reste dans les relations de pouvoir. Alors que les écrits viennent dire, voilà les règles du jeu qui sont ici. Tu y vas ou tu y vas pas, tu entres ou non. Mais il y a beaucoup moins du coup de tentation de relation de pouvoir, parce qu'on regarde les règles, on dit bon, aujourd'hui de nos jours, on dit j'ai un ou j'ai un fond. Il y a une clarté des règles qui régissent nos relations. Organisation des tâches, hiérarchisation, on va arriver à la hiérarchie, on va voir arriver le militaire, on va voir arriver les grandes institutions publiques qui viennent définir les rôles et les places de chacun et l'importance du chef. Ok ? Chacun a sa place, chacun a son rôle, obéissance, discipline, coercition. De nos jours, qu'est-ce qui reste du bleu ? On le voit encore dans les religions monothéistes, on le voit en fait dans la croyance, dans c'est bien, c'est mal, et dans les dogmes, dans les nations et dans l'institution publique, dans les lois et dans l'exercice, les statuts. On va faire un tout petit exercice, pas long, mais est-ce qu'on a le temps là ? Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps, on ne va pas le faire. Mais vous voulez aller jusqu'au bout de l'histoire ? On le fera dans les ateliers pour ceux qui continueront. Donc là, on va faire une autre scène. On va faire une autre scène pour montrer la difficulté qui c'est parfois de faire appliquer la règle. Que l'on ait un statut, quel que soit son statut. On travaille pas mal avec les contrôleurs du travail en Montpellier, qui, ce ne sont pas des gens pour qui j'avais une affection particulière, dans les contrôleurs, voilà, j'ai souvent triché en crâne ou autre. Et j'ai vu en allant les accompagner de 10h du soir à 2h du matin, les qui vivent sur le terrain, et notre mission c'était comment ils peuvent canaliser l'agressivité, donc ils sont l'objet, mais également comment ils peuvent canaliser leur propre agressivité. Voilà. Donc c'était l'analyse de pratique sur le terrain assez importante, et j'ai vu l'endroit où ils se faisaient vraiment agresser, non pas. Alors on leur disait, mais ne le prenez pas personnellement, c'est pas toujours facile. Voilà, donc ils recevaient pas mal de mots qui étaient difficiles à entendre. Donc, on va jouer une scène qui se passe dans le tramway. Vous êtes contrôleur ? Non, c'est pas vous, les contrôleurs, vous êtes. Alors, voilà. Là, on va une équipe de deux contrôleurs. Un ou pas, et puis le tramway est là. Ok, on joue la scène. C'est parti, c'est pour vous montrer le bleu par rapport au rouge. Comment la loi vient éventuellement essayer de contenir et canaliser l'énergie de la puissance rouge.
Pour vous débiller, s'il vous plaît.
Pas de ticket, s'il vous plaît.
J'ai pas de ticket.
Comment ça, vous n'avez pas de ticket ? Ben, contravention.
Non, j'ai pas de ticket.
Écoutez votre carte d'identité, s'il vous plaît.
J'ai pas de carte.
Excusez-moi, là, vous ne vous moquez pas de moi, je suis fatigué, donnez-moi votre carte d'identité, votre nom.
Je m'appelle Durand.
Durand,
c'est ça.
Non, je m'appelle Durand, j'ai pas de carte d'identité, je suis en train d'essayer de, justement d'aller faire ma carte d'identité. J'ai plus de boulot, j'ai plus de maison, j'ai plus rien. Voilà, et encore, là, je vais me prendre une amende dans le tramway, alors que moi, je peux même pas payer. Ils m'ont même pas, ils me donnent le RSA. Hein, j'ai rien, qu'est-ce qu'il y a maintenant pour les gens comme moi, qui n'ont rien du tout. C'est toujours de la galère, c'est toujours comme ça, quoi. Et vous, vous arrivez, et encore, vous allez mettre une amende.
Pas, monsieur.
Mais bon, allez-y, faites votre boulot.
Bon, écoutez, ça ira pour cette fois. Si vous voulez, et la prochaine fois, prenez bien
un ticket. Ah, ben, si c'est comme ça, moi aussi je suis au chômage, hein, monsieur. Je paye mon ticket. Alors la prochaine fois, je vous dis, je ne vais pas payer.
Ok, merci beaucoup. Ok, donc quel est l'enjeu là? C'est qu'en fait, ce contrôleur là, il a un statut. Sa mission, c'est une forme de justice. C'est une règle du jeu qui dit quand on prend le train, on paye. Et du coup, est-ce qu'il arrive à la mettre en œuvre?
Non,
pas vraiment, ok.
Il peut donner un avertissement.
Il peut donner un avertissement.
La prochaine fois.
D'accord. Alors, dans le théâtre forum, on pratiquera dans les ateliers, mais là sur la conférence, on n'a pas le temps d'être là. On monte sur scène, en fait, on dit maintenant, si j'étais le contrôleur, moi je fais autre chose, et on essaye, et du coup, on peut aller regarder quels sont les bénéfices, et les limites et les risques de chaque proposition. Dans le but toujours d'élargir notre conscience, et d'aller dans des capacités de mettre de l'espace entre action et réaction. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous lâchez?
Bah, je vois qu'il s'énerve.
Ok, alors, essayez de mettre la balance. Vous pensez que vous devez la mettre ou non?
Ah, oui.
Bah, lui, il est là. Ah, allez.
Alors, votre ticket, s'il vous plaît.
J'ai pas de ticket.
Bon, mais écoutez, je vais prendre votre carte d'identité pour noter votre nom.
J'ai pas de carte d'identité.
Bon, écoutez, monsieur, tant pis, on va voir, on va appeler les collègues, puis à la prochaine avant, on va appeler la police.
C'est ça, appeler la police, il était moi en prison, de toute façon, j'ai plus rien, j'ai plus de travail, hein, moi j'ai plus d'argent, alors en plus, il faudrait que je paye le tramway. Normalement, ça devrait être gratuit pour les gens comme moi, le tramway. Ça doit être, je veux pas
payer. Monsieur, moi, je fais mon travail, je peux pas vous laisser prendre le train sans payer, donc voilà, au prochain arrêt, vous descendrez avec
moi. Ouais, le travail. Ça te plaît comme travail, ça? J'ai des amendes à des gens comme ça.
Écoutez, hein, monsieur.
Ça te fait vendre?
Elle est contente, ta femme?
Après, ça, par exemple, voilà par quoi ça va, souvent, comme du coup. Allez, ça va dans l'endroit du duel. Vous savez comment ça pourrait revenir en rouge? C'est super chaud cet endroit, pour repartir dans la puissance. Donc son point d'appui, c'est la loi. C'est le tiers. C'est voilà, soit il paye et il se passe ça, soit il paye pas et il se passe là. D'accord. Mais là, du coup, en fait, voilà, il risque de recevoir des flèches, et s'il les prend, il va repartir dans l'eau. Dans le but de. Même s'il lui attaque, voilà, le temps de le canaliser, c'est parti.
Alors, garde monsieur.
Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, vous ne me parlez pas comme ça. C'est bien, moi, je suis juste pour mon travail. Mais écoutez, si vous voulez, je suis garde monsieur. C'est pas un souci. Vous avez les collègues? Ok, du coup, on va aller se rendre avec nous au poste, monsieur. Une fois la règle, c'est la même pour tout le monde. Je suis désolé.
Ça fait bander, mais des contrats.
Si vous voulez.
Elle est contente,
madame, que tu fasses
ça comme travail.
Ok, merci. Ok, c'est ça. Oui, c'est un endroit qu'on ira travailler, parce que c'est vraiment cet endroit où on prend parents parfois. On est bien mal. Il y a avec les ados, avec les 3-5 ans, là. Et à un moment donné, tu vas t'en prendre, il y a Francine, c'est pas ça qu'il voulait faire. Donc, qu'est-ce qui a été activé en lui? Donc, c'est cette puissance, et dans laquelle le tiers, que ce soit le collègue, qui vient prendre le relais. Donc, c'est ce qu'il pratique, par exemple, le contrôleur. Il vient prendre le relais, ou bien, voilà, soit il fait, soit il fait pas, et puis de laisser glisser. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure. Alors, ensuite, voilà, il y a cet arrivée de cet espace d'ordre qui vient pacifier. Vous voyez, c'est du côté de la spirale, c'est du côté de la relation. C'est comme le code de la route, qui nous paraît aussi assez évident. Et vous voyez, quand il y a un 40 ans qui arrive, le feu passe au rouge, le piéton, il peut passer. Et ça, c'est le changement, j'avais 200 à travers, à chaque fois que je passe, que la voiture s'arrête. Il y a des pays où il n'y a pas à faire ça, en fait. Voilà. Parce que, voilà, en Chine ou ailleurs, parce qu'en fait, cette règle-là n'est pas intégrée de la même manière, donc ça demande une vigilance de tous les instants.
Donc rien que ça, cette acceptation qu'on a, on s'arrête au feu rouge, ça a demandé de nombreux milliers d'années. Mais du coup, on a des règles qui sont posées, et à votre avis, quelle est l'étape suivante? Ben, c'est que les règles, en fait, elles ne sont pas forcément justes. Elles sont basées sur des croyances, elles sont basées sur du dogme, et que ce qui va émerger, c'est pourquoi. Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi on fait comme ça? Donc c'est le pourquoi de l'enfant, mais c'est aussi le pourquoi de... C'est le fameux « et pourtant le tourne ». D'accord? C'est-à-dire que ça va être le besoin de comprendre. De comprendre. Donc c'est l'arrivée de l'intellect, aussi du mental. Il va nous embêter par la suite, mais pour l'instant, il est bien utile de comprendre, de trouver des réponses à des questions qui sont basées sur l'observation et plus sur des croyances. C'est plus la Terre, le centre de l'univers, parce que nous sommes le centre de l'univers, c'est et pourtant elle tourne. J'ai vu dans l'appareil. Et s'y est pris à plusieurs fois, parfois. Parce que c'était super risqué de dire ça, vraiment. Et il y a aussi, on n'a plus envie d'être charpentier comme son père, on n'a plus envie de rester juste dans ses règles, vous voyez, on est à nouveau du côté où ça peut enfermer, c'est plus la fusion, mais c'est les normes qui viennent enfermer, et du coup on va rechercher des opportunités de croissance, de progrès. L'idée qu'il y a une évolution individuelle qui est possible, et qu'on peut rêver d'une vie meilleure ici et maintenant, et pas juste dans notre monde. D'accord. C'est maintenant que je veux explorer, c'est maintenant que je veux comprendre. Mais pas juste basé avec la puissance, mais avec les règles du jeu qui sont déjà définies. Vas-y. Voilà. Donc effectivement, on est du côté... Merci. On retourne du côté du centré sur l'individu. Voilà, merci. Et là, ce qui va émerger, c'est la raison. C'est la réflexion. C'est la capacité à s'observer, à observer le monde, et à comprendre, à analyser, à voir les effets, les causes et les effets. Et c'est l'avènement, tu peux y aller, c'est l'avènement de plus, on n'est plus en termes de bien ou mal, on va passer en termes de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. D'accord? Et donc, vas-y. On va voir arriver, donc on estime que ça émerge à peu près il y a 300 ans, même si les dates que je vous donne, c'est vraiment très, c'est des repères, mais on voit des prémices de chacun des courants, des stades avant, mais c'est simplement des moments où vraiment ça commence à prendre place. C'est le moment de l'arrivée de l'imprimerie, et donc l'imprimerie va permettre une diffusion, un échange des idées, une démocratisation de savoir. C'est le moment des grandes découvertes. On va partir en bateau. C'est le moment des échanges commerciaux. Il y a une classe bourgeoise qui émerge. Énormément de progrès technologiques et matériels. Et on n'est plus sur le droit divin et on est roi de père en fils. On est sur le début de... Il y a le mérite personnel qui vient comme moteur, en fait. Les compétences, le travail... Donc la notion d'échelle sociale, et puis donc en France, donc sinon de manière générale, en France en particulier, le siècle des Lumières et l'encyclopédie est construite. Donc une époque assez. Donc, voilà, quelques photos juste pour décrire ça. Vas-y. Voilà, encyclopédie, juste pour mémoriser les déclarations des droits de l'homme. Et puis Léonard de Vinci avec remettre en fait l'être humain au centre. Hein, la singularité, l'individualité, on va aller vers le fait de que chaque personne apprenne à lire, à écrire. Ça va être le début de la démocratie, l'imprimerie. Donc ça va être toute l'émergence progressive d'État démocratique avec cette idée du droit de vote. Vous allez imaginer que chaque citoyen va pouvoir voter. Ça n'est pas évident. C'est juste une évolution incroyable. La notion de citoyenneté, la notion de justice, qui n'est plus une justice de droit divin, mais une justice faite par les êtres humains, dans laquelle il peut y avoir des circonstances atténuantes, dans laquelle il y a un jury, dans laquelle il y a des témoins, dans laquelle il y a un procès. L'éducation et la science, notamment la science, avec toute cette réflexion autour de la médecine, par exemple, sur. des études qui peuvent être faites pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc on est vraiment dans une culture de l'efficacité basée sur l'observation. Ok ? Alors avant de passer au vert, eh ben, puisqu'on est dans l'orange, l'orange, c'est l'espace de raison, c'est un espace qu'on connaît bien en France, en Occident, parce que c'est ça dans lequel on baigne en permanence. On est dans des débats intellectuels, on argumente, on est dans des débats d'idées. Donc là, je vais vous inviter à prendre 3 minutes par petit groupe de 3-4. Juste s'il y a des questions qui émergent, voilà, juste discuter avec vous de ce que vous comprenez, de ce que vous vous en êtes par rapport à ce que je raconte, qu'on raconte. Et prenez 2-3 minutes pour vous exprimer. Et juste s'il y a une ou deux questions qui émergent, on va les prendre. C'est le moment du orange. Ok, c'est parti. Je suis plus en relation avec lui, où je participe à la guerre inconsciemment. Mais c'est pas évident de passer dans un autre espace que celui de juger. Donc c'est ça qui est au travail, dans notre conscience. Pour ça, plus on capte les besoins et les valeurs des autres, plus ça va. Donc je crois que vous êtes la directrice de l'école.
Oui, je suis Madame Roland, la directrice de l'école. Là, on est en réunion avec les parents de l'école.
Vous êtes enseignant ?
Oui, tout à fait, moyenne section, grande section.
Moyenne section, grande section. Et vous êtes donc la...
Philippe Fournier, je suis parent d'élève. Délégué...
Voilà, dans une association de parents d'élèves. Voilà, c'est la fin de la réunion, je crois. On écoute comment ça se passe.
Voilà, donc on arrive vers la fin de cette réunion. Vous aviez des informations à nous transmettre sur les rapports avec les entrées.
Oui, voilà. Alors oui, j'aurais voulu qu'on réfléchisse à la possibilité d'améliorer en fait l'entrée des enfants pour qu'on optimise un petit peu cet endroit-là, parce qu'il y a des problèmes en fait. Comme vous le savez, l'entrée de l'école est près de la route, il y a juste le trottoir. Alors quand les enfants
je vois bien le problème, je vous arrête tout de suite. L'entrée des enfants se fait à partir du portail vert, et là les parents ne rentrent pas. Le petit minot s'est fait renverser quand même. Petit minot, la règle c'est que les enfants marchent sur le trottoir et pas sur la route, on est bien d'accord quand même.
Mais la règle, excusez-moi, le petit minot je l'ai en classe justement, si ça rend le cadre un peu plus, ce sera beaucoup plus facile. On est fonctionnel dans la classe.
Ok, stop donc. Pas évident hein, d'aller, vous pensez que ça allait passer facilement.
Pour toute raison.
Voilà. Donc en fait.
Je veux leur rien.
Donc on passe dans ce qu'on appelle un dialogue de sourds. On appelle oui-mais. Okay. Oui, mais on combat l'argument. Puis en général, au bout d'un moment, voyons, tenter autre chose. Qu'est-ce qu'il pourrait tenter pour se donner plus de chances de réussir à ce que ça évolue. Leur proposer d'être présent lors de leur entrée, d'accord.
Que la directrice puisse se projeter en tant que parent à son enfant et se mettre dans leur rôle à eux.
D'accord. Donc vous voyez toutes les pistes qu'on pourrait, oui.
Qu'elle écoute aussi.
Qu'elle écoute.
Que ce soit les...
Qui ça?
S'il faut écouter tout le monde.
Alors, voilà. En fait, donc du coup, en général, on aimerait bien que les autres changent. Là, on est mal barré parce que, donc en fait, ce travail, ça va être justement, donc on va l'arrêter là pour voir cet endroit-là, il va nécessiter d'aller passer dans l'étape suivante, qui va être l'intégration de l'écoute. Or, dans le monde rationnel, dans le monde orange, dans le monde de la liberté individuelle, on vit l'écoute en général comme perdre du terrain. Si je commence à écouter l'autre, c'est fini. Quoi. En plus, si je reformule ce qu'il dit, c'est mort. Donc en fait, on est en permanence dans oui mais, et pendant que l'autre parle, on l'écoute pas en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas de l'argent. Donc ça aussi, c'est très fatigant et très inefficace. Donc ça va être les limites de cette culture individualiste, même si elle a apporté énormément, parce qu'on peut aller chacun d'entre nous vers beaucoup plus de choix individuels, ça ramène aussi cet endroit de beaucoup plus de risques, de rapports de pouvoir qui ne sont plus les rapports de pouvoir par l'emprise et la force, mais par le mental, l'argumentation, la contre-argumentation. On va s'arrêter à ce que le temps nous presse. Merci. Donc, du coup, ça va nous emmener à l'endroit de passage de ce monde qui était basé sur la compétition, l'excellence, le progrès, qui a été énorme pour faire évoluer l'humanité, mais une sorte de fatigue de cette nécessité, de cette pression d'être toujours le meilleur. On le voit beaucoup avec les adolescents aujourd'hui, comme un ras-le-bol de devoir tous les matins au moins qu'est-ce que tu vas faire ta vie pour moi. Et en gros, avant, il pouvait dire, moi, je cherche un chantier comme mon père, ou moi, je suis une fille, de toute façon, je ne pourrais pas faire des études. Maintenant, ils peuvent plus dire ça. C'est comme si tout leur univers, c'est de leur responsabilité. Donc, soit ils marchent dedans, soit ils sortent et ils passent en mode dépression. Donc, on voit que la dépression et le stress sont les deux mots de notre époque qui sont très liés à cette culture-là. Donc, faut-il extraire de l'excellence de la compétition, de la rationalité à outrance, il faut tout évaluer, de tout expliquer, il faut. Voilà, de la consommation du trop-plein, de l'individualisme et des inégalités. Et si cet endroit où il n'y a pas de sens. Et donc, il y a une recherche de pouvoir être plus authentique, en fait, et ça se trouve dans ce genre de lieu, ici. Enfin, on peut se poser et juste partager, sans s'engueuler. Dans l'échange ou le dialogue qu'on recherche, c'est un dialogue où j'écoute l'autre parce que je m'enrichis de sa différence et que j'ai rien, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure. On ne cherche pas à convaincre, on cherche juste à partager notre expérience, notre vulnérabilité, notre recherche. Et du coup, c'est beaucoup plus nourrissant. Et du coup, on s'autorise plus à écouter. Recherche d'authenticité, de dialogue, de paix et d'intégration communautaire. Alors, l'apparition du verre. Donc, vous voyez, le verre, il se situe du côté du collectif. Après, être allé loin dans l'individualisme, on en voit les limites. Les limites, c'est bien d'être le meilleur, quoi. Mais si je suis tout seul, et que le monde va mal, au bout d'un moment donné, même si on a plein d'argent, et qu'on est tout seul dans sa maison de 500 mètres carrés, c'est pas si fun que ça, finalement. Donc, il y a un endroit où. Souvent, ça passe par des événements de vie, d'ailleurs, qui sont pas faciles, qui peuvent être le burn-out. Ça aussi, c'est un mot du siècle. C'est, je n'arrive pas à arrêter la machine. Donc, jusqu'au moment où je brûle. Et donc, du coup, on va passer progressivement vers un endroit où on va aller rechercher plutôt le groupe comme un groupe d'appartenance. Mais plus comme un groupe d'appartenance dans la fusion, où en fait, dans la fusion, il n'y avait pas de « un ». Le groupe vert, le groupe d'appartenance, est basé sur le pluralisme et l'empathie. C'est-à-dire qu'on va être dans des groupes où chacun va pouvoir être dans son témoignage, son expérience. Okay. Alors, quelques mots sur l'émergence du vert. À peu près, il y a 150 ans, ce qui a été le moteur de ça, on le retrouve en particulier dans le terme créatif culturel, certains connaissent peut-être. C'est cette émergence d'une relation avec la nature qui ne veut plus être une relation. Vous connaissez bien le vert, parce que je pense qu'on est dans une culture qui est verte ici. Vincent, tout à l'heure, vous en parlait. On est exactement dans l'émergence du vert et après. C'est-à-dire qu'on on se sent concerné par la nature, on n'a plus envie d'exploiter la nature. D'accord ? On sait qu'on a des ressources finies, on n'a plus envie juste d'être dans le court terme. On veut aller vers du développement durable. On veut être dans du commerce équitable, on veut être dans une recherche de paix, et pas dans ce qu'il y a à tout prix. On veut être, donc se développent des choses comme la communication non violente, se développent des choses comme la gestion constructive des conflits, tout ce qui est groupe de parole, thérapie, etc. On n'est plus juste dans réussir, on est dans vivre ensemble. Et ça, on voit quand on voit, on le voit apparaître au niveau de l'éducation nationale aujourd'hui dans les textes, pas encore beaucoup dans les pratiques, parce qu'il y a toujours un temps, hein. Mais dans les textes, c'est déjà là. Et bonne nouvelle, parce qu'on peut s'appuyer dessus. Pareil dans les hôpitaux, pareil dans les prisons, il y a vraiment des points d'appui déjà qui arrivent, puis on va vers un respect de l'intégrité physique et psychique de chacun. De ça, de mon point de vue, c'est une bonne nouvelle. L'autogestion dont on a parlé, et simplement, chez les Verts, il y a vraiment un souci, une volonté de tellement respecter chacun d'entre nous qu'on va vers une décision par consensus. Et ça, ça prend du temps. Du coup, c'est pas forcément évident à mettre en lien avec l'action. Parce que comme enfin, j'ai un espace où je suis dit, moi, je suis pas complètement d'accord, là. Je le sens pas trop, j'aimerais qu'on en parle un peu. Et quand on respecte chacun, on dit, ok, ben, vas-y, ben, voilà, je vais dire que là, la dernière fois que tu m'as parlé, enfin, j'exagère, caricature. Et vous connaissez ça, cet endroit où le bleu, la règle, l'ordre, le chef, n'en veut plus, parce qu'on en a souffert. Et du coup, le cadre, il nous frotte et on n'aime pas trop, et c'est l'endroit du verre qui a ses limites. Et donc, continuons juste, voilà, nature, quelques photos, méditation, bien sûr, commerce équitable. Voilà, émergence d'une. Moi, je vois la génération de mes parents qui pensent en termes de la France. Ils ont vécu la guerre. Ma génération, on a pensé l'Europe. On a participé à la construction de l'Europe. et mes enfants, ils sont citoyens du monde. Voilà. On sent que l'espace marche. Parce qu'il y a une compréhension systémique qui est que ce qui nous arrive concerne les autres et qu'on voit bien de plus en plus que les choses sont reliées. Vas-y. Merci. Voilà. Les rassemblements, de plus en plus juste, un peu comme dans le violet avec la sensation du un, mais dans lequel, en fait, chacun peut faire ce qu'il veut. Vous voyez, comme les Rainbow, je ne sais pas comme si vous avez entendu parler, comme Burning Man aux États-Unis, ces endroits où on est dans la créativité, il y a une grande liberté, ces espaces, comme celui-ci, l'espace des possibles, où on est vraiment dans l'accueil de cette créativité de chacun. Logique. Voilà, ça j'aime bien. Maintenant, il est sous la révolution humaine. Mais là, il va falloir connaître ça. Le verre aujourd'hui, ben voilà, je vous disais en deux mots, vraiment, on n'est plus dans la pensée qu'il y a une réalité indépendamment de nous. On commence à capter au niveau de notre conscience que ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce qu'on interprète, est lié à nos fils. Et nos fils, c'est notre histoire, individuelle, collective. Donc, on s'intéresse de plus en plus à la subjectivité, à l'intériorité, au pluralisme, l'empathie, qui est la capacité à entendre, à imaginer, à ressentir ce que ressent l'autre, mais pas comme dans la fusion où j'ai froid, mets ton pull. Vous voyez, c'est plutôt t'as froid, mets ton pull, quoi, et moi j'ai chaud. Voilà. On peut être différent. Et là, de la diversité, aussi bien au niveau écologique, il y a un souci vraiment de prendre soin de cette diversité comme ayant un sens, de l'intersubjectivité, c'est-à-dire ton expérience nourrit la mienne et la mienne nourrit la tienne, tout ce qui va être médecine alternative, soins palliatifs, on n'est plus juste dans la médecine, commerce équitable, nourriture biologique, etc. Et on sort de la notion de rapidité, où il fallait tout faire vite, parce que c'est comme ça qu'on gagnait, pour aller vers la lenteur, la simplicité, la sobriété dont parle Pierre Rabhi. Et si on revenait à des choses plus simples et moins cher. Voilà. On sent que ce mouvement, il est bien en train de émerger. Ok, juste on fait cette situation. Vas-y. Donc, dans un monde orange rationnel, comment accompagner avec l'empathie? Donc, ça se passe dans une maternité, vous venez d'accoucher.
Ma femme vient d'accoucher, on est très heureux, c'est notre premier enfant, c'est merveilleux.
C'est la femme qui les accompagne.
Moi, je suis le médecin.
Moi, je suis contente.
Il ressemble, non?
Alors, ça va, tout se passe bien?
Ouais, j'aimerais bien rentrer chez moi.
Ok, vous ne pas bien en fait?
Moi, ouais, je suis partie, je vais à l'hôpital et puis c'est bon, sans prêt à rentrer avec mon mari et le bébé. Je sens que c'est bon, j'ai envie de partir d'ici. Je vais en plus de mon médecin, je vais partir vraiment. Je prépare mes affaires. Je parle de madame Roman.
Ah oui, les petits fusions. Ah bah écoutez, non, c'est pas possible. Ça fait un jour qu'elle est là, il faut qu'elle reste au moins 3 jours sous surveillance. Vous savez bien que j'ai l'impression d'avoir un petit rêve dans les
lignes. Ouais, elle se sent pas de risquer.
Ouais, écoutez, je veux pas savoir. Non, attendez, je vais aller vous parler. Oui, bonjour, madame.
Bonjour,
merci. Écoutez, c'est pas possible. Regardez votre.
Regardez ce que vous avez fait.
Oui, mais regardez votre ton. D'accord. Vous devez rester encore 2 jours sous surveillance. C'est parce que c'est par rapport à vous, c'est pour pas qu'elle ait manger.
Mais
j'ai
fait attention, mon mari va bien.
Excusez-moi, écoutez, il y a un moment donné, si on sait ce qu'on fait.
Moi, je sens dans le genre que je peux rentrer à la maison et que mon mari va me soulever.
Oui,
je
sens tout à votre corps.
Ok, merci. Donc ça, c'est la phrase clé. Pour le médecin, je sens dans mon corps, ça n'a juste pas envie de. En Occident. Voilà, donc en fait, on est dans ce conflit entre d'un côté les chiffres, C'est, vous voyez, c'est plus la norme bleue, c'est bien ça. Hein. C'est non, avec ce taux-là, il y a un risque. Vous avez 82% de chance de refaire une infection. Si vous avez peur. Et du coup, on passe en un début de tentative d'accompagnement, d'empathie, qui n'est pas évident.
Il y a 82% de chance.
Oui. Vous allez vous dire, monsieur Durand.
Voilà, on va les laisser gérer ça. Merci, c'est bon, on les applaudit. De valeurs vertes, de l'empathie et de l'autorisme, qui sont arrivés les soins palliatifs. Parce que là, il y a une réintégration de l'humain. Et un médecin, quand il n'y a plus rien à faire, bon voilà, il sort de la chambre. C'est pas le même métier. C'est pas. Ils sont, les médecins, on travaille pas mal avec les médecins, juste. Même un enfant, une mère qui. Enfin, quand un enfant va mourir ou un patient va mourir, ils sont bons. Et c'est juste vrai. Donc, qui s'occupe des gens qui passent? Et donc, tout le travail d'accompagnement et en soins palliatifs, entre autres, mais aussi en crèche ou en maternité, c'est un travail d'humanité, d'empathie, avec une tentative de plus en plus de respecter les désirs, les volontés, les souffrances, les peurs des personnes et des familles. Voilà, ça c'est aussi de mon point de vue une bonne nouvelle, même si c'est quelque chose qui a besoin de se déployer. Donc voilà, pour finir, en fait, simplement de voir que les stades qu'on a traversés, sont des stades qu'on appelle dans le premier cycle. C'est-à-dire que chaque stade s'est développé en opposition au stade précédent. D'accord ? Et que, par exemple, pour aller dans la raison et la science, la démocratie, il a fallu vraiment lutter contre la religion. Vous voyez, la séparation de l'Église et de l'État, ça a été traumatisant, je dirais, pour les gens de cette génération-là. Donc, quand on parle de spiritualité et de trucs, ils disent, purée, reviens en arrière. C'est ce que Ken Wilber appelle la confusion entre le pré et le post. C'est-à-dire pour les médecins, pour la médecine alternative avec le tambour chamanique ou autre, c'est au secours. On revient à des pratiques ancestrales. Parce qu'il n'y a pas la conscience qu'en fait, il y a une progression qui n'est pas un refus de la médecine allopathique ou que sais-je, mais qui est d'aller plus loin. Et pour les gens rationnels, par exemple, au-delà de la raison, il n'y a rien. Parce que quand on est habité par un certain niveau, on ne voit pas les niveaux suivants. Donc ça peut expliquer le nombre de tensions qu'on peut avoir. Et en France, on est assez fort pour avoir d'un côté les gens qui sont pour les médecines alternatives et de l'autre côté les allopathes. Il y a d'autres pays où il y a beaucoup plus de communication entre ces visions du monde. Et c'est ce que propose le deuxième cycle, qui est, et c'est ça que j'appellerais qu'est-ce qu'un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui a la capacité donc, de passer au niveau individuel du côté jaune, on appelle ça jaune, qui est un niveau intégratif, systémique, qui ne s'oppose pas au niveau précédent, mais qui vient reconnaître l'importance de chacun de ces niveaux dans le développement de l'humanité, dans le développement de sa propre vie, et qui est capable d'aller mobiliser à l'intérieur de soi le niveau dont il a besoin, et non pas d'être projeté dans un niveau. Et d'un coup, je m'énerve et je passe dans le niveau puissance et je comprends pas pourquoi. Ou tout d'un coup, je m'accroche à l'autre en disant même si je parle ou je passe, en fait, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est d'aller mettre de la conscience, en fait, dans les ressources qu'on a en nous, qui sont ces différentes strates, et de pouvoir les jouer avec. Donc, si je suis dans un groupe et qu'à un moment donné, je n'entends plus rien, je peux rappeler la règle. Si quelqu'un ne comprend pas, je vais l'expliquer. Si quelqu'un arrive en danger, il y a plus toute la nuit à m'attendre et je peux juste le prendre dans les bras, donc là, ça peut être chaud. Voilà. Je peux aller jouer avec chacun de ces niveaux de façon de plus en plus. Voilà, du coup, c'est cet espace de souplesse relationnelle et du coup d'intégration des paradoxes et dans lequel je peux aussi bien à l'intérieur de moi qu'avec les autres être en écoute du point de vue de l'autre et en même temps de son intériorité mais aussi me positionner par rapport à des actes qui me semblent pas juste par rapport aux valeurs et à l'évolution de conscience. Que ce soit en respect par rapport à la planète, en respect par rapport aux plus vulnérables. Et puis, on va dire qu'on est à peu près là au niveau jaune, que c'est ce qui est en train d'émerger aujourd'hui, en tout cas ce qu'on s'appelle. Et puis, ce qui est présenté dans la spirale, c'est que le niveau suivant, qui est holistique, qui est du côté donc du collectif, c'est un niveau dans lequel il y a une sorte de vision globale, et dans lequel, je vais, si tu veux bien passer le transparent, comme ça, ce sera, voilà, tu as qu'à passer celui-là, parce que j'ai déjà dit, voilà. En deux mots, la vision du jaune, sa vision du monde, c'est que la vie est un flux. Donc, je ne suis pas en train de planifier. Je suis à l'écoute des opportunités qui sont proposées et l'évolution du monde n'est pas linéaire. Je sais que c'est systémique, qu'il y a des interactions, qu'il y a une interaction aussi entre ce que je vis à l'intérieur et ce que je vis à l'extérieur, donc le changement que je souhaite pour le monde. Sa manière d'évoluer, c'est beaucoup par la présence, ce qu'on appelle aussi la conscience. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est une phrase pour moi, c'est un mot-clé. À chaque fois que qu'on se sent activé par quelque chose, c'est qu'est-ce qui se passe en moi et entre l'autre moi. Et ça vient de calmer la bête, calmer le cerveau limbique qui dit « Éveille-toi, va faire bien !» Il y a quelque chose pour dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, ça met l'espace pour aller me taire, ou bien interagir d'une autre manière. Il n'y a pas d'échec, il n'y a plus d'échec. L'échec, c'est une vision orange, rationnelle, il y a juste des expériences. Et chaque expérience, qu'elle soit grave ou pas, douloureuse ou non, c'est sans doute quelque chose que j'ai co-créé pour apprendre de la curiosité. Sa manière d'agir dans le monde peut planifier, intuitive, ressentir et ajuster. Voilà, tac, je ressens, j'ajuste pas, il y a une porte qui se ferme, ok, c'est pas grave, tiens, il y en a une autre qui s'ouvre. Mais dans une éthique, pas dans un opportunisme, mais dans une éthique. Beaucoup de travail en réseau, on n'a pas le temps de développer ça, mais les jeunes sont vraiment ouverts à ça. Ce qui motive, ce qui fait kiffer les jeunes, comme ils disent aujourd'hui, c'est pas tellement ce qu'on leur propose à l'école, qui est un peu le vieux monde. C'est pour ça que le non-schooling se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de parents qui disent ok, on va faire l'école autrement. Et c'est vrai que ça donne des enfants bio par rapport à l'ado, parfois ça donne cette impression, en fait. Réseau et créativité. Voilà. Putain, si je suis avec mes potes et qu'on a un truc à créer, voilà, là ça me motive, là j'ai l'énergie. Voilà. Le niveau holistique turquoise, qui est, je vous en parle, mais en fait j'en ai peu l'expérience, néanmoins autour de moi, je sens qu'il y a des brefs moments où je peux commencer à le ressentir, mais c'est très en émergence. C'est la vision du monde, c'est que le monde est un système global, il parle de multiples forces, c'est que nous participons, à l'intérieur il y a juste un élément de ce système, donc on sent bien que l'ego a besoin d'abord de se dissoudre pas mal pour pouvoir aller faire cette expérience, qu'on est tous reliés, que l'enjeu c'est l'élargissement de conscience de l'humanité, de toute l'humanité, donc dès que je cherche à exclure quelqu'un, peut-être je me garde. Voilà, que les événements mondiaux sont des façons qu'elle a mis d'impulser l'évolution. Sa manière d'évoluer n'est plus préoccupée de sa propre évolution individuelle, mais au service de quelque chose de plus large. Du vivant, de l'amour, de l'évolution globale, voilà, je sais pas, peut-être vous pouvez rencontrer des gens, des espaces dans vos vies où vous sentez que, ah ouais, c'est ça qui est envie, c'est pas là que je veux, c'est, ah ouais, tiens, ça, c'est vivant et ça m'appelle. Et sa manière d'agir dans le monde, c'est en lien avec celle qui œuvre et l'élargissement de conscience, donc on voit des réseaux, mais qui sont beaucoup plus ponctuels, en fait, il n'y a pas d'engagement sur la durée, c'est comme s'ils allaient là où ça a besoin d'eux, et puis si ça a plus besoin d'eux et que la lumière a été posée, ils peuvent partir ailleurs. Et puis là, vous voyez, il y a comme un effet d'essaimage. Et enfin, voilà, accompagner, prendre soin de ceux qui cherchent le sens de leur vie et de celle du vivant. Voilà. Alors, on en est là aujourd'hui. Je crois qu'il est l'heure de 9h05, est-ce qu'on a encore Isabelle quelques... Moi, je propose qu'on ne parle pas nécessairement dans un débat maintenant. Je vous propose de vous laisser le temps d'intégrer. Si vous avez envie d'aller approfondir par rapport à votre propre énergie de vie, voilà, les endroits où vous sentez que ça a envie et que ça fraîche, je vous invite. dirais qu'avec un nos ateliers, on va creuser ça, dans lequel on pourrait plus être acteur, intervenir plus, poser des questions, approfondir ce qu'on a abordé aujourd'hui. Il y a aussi donc le bouquin Mon Change de Nuit qui est là, et puis on est à votre disposition, bien sûr, pour partager ça. Un grand plaisir d'avoir vos retours. Un grand merci à vous, un grand merci à votre
Thank you.